À quoi se mesure la précarité? C'est l'un des problèmes que pose ce mot, dont on nous dit toujours, en particulier en ce qui concerne les étudiants, qu'on ne sait pas très bien le définir, que c'est assez flou, que c'est incertain, la précarité. C'est même l'un de ses sens premiers, ce dont on ne peut garantir la durée, ce qui n'est pas assuré. Mais saviez-vous que le mot précarité, à l'origine, renvoyait à la prière? Était précaire, en latin juridique, ce qui était obtenu par la prière, ce qui était demandé à un dieu, et puis, par extension, à un seigneur, un propriétaire ou une autorité. C'était ce qu'on nous octroyait, en fait, mais qu'on pouvait nous retirer à tout moment. C'était ça, la précarité, cette essentielle incertitude, cette fragilité, cette absence constante de garantie, mais aussi l'idée d'une dépendance, d'un rapport de pouvoir inégal, où le bénéficiaire d'une faveur se soumettait à celui qui la lui accordait. Alors évidemment, c'est passionnant, parce que si on mesure la précarité des étudiants à leurs revenus de plus en plus instables, fragiles ou incertains, on pourrait tout aussi bien la mesurer à leur soumission. Cette soumission qui semble tout à fait souhaitée et que les étudiants refusent sans se dégonfler. Lutter contre la précarité, autrement dit, c'est forcément se révolter.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quel œil mon invité d'aujourd'hui voit-elle la prière et la révolte des étudiants français, historienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, spécialiste de la Russie, observatrice avisée et sans concession de notre époque, d'aujourd'hui. Elle vient nous éclairer de ses lumières d'immortelle. Bonjour Hélène Carrère-Dancausse.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, parce que c'est quand même le sujet, peut-on étudier dans la précarité?
Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu. On a donné au mot précarité un sens, vous avez développé, je dirais, le sens étymologique, mais on lui donne aujourd'hui un sens extrêmement étroit. En définitive, on dit, bon, ces pauvres étudiants, pour se loger, c'est très cher, ils sont obligés de retourner chez leurs parents, ils sont inquiets. Moi, quand je parle de la précarité des étudiants, qui me trouble, enfin, c'est pour moi une douleur, parce que toute ma vie, j'ai eu des étudiants. Je pense à quelque chose de beaucoup plus profond, qui rend leur sort tragique aujourd'hui. Ce qui rend leur sort tragique, c'est qu'ils sont dans l'incertitude sur le monde dans lequel ils sont.
Oui.
C'est beaucoup plus grave. Bon, les étudiants ont toujours été dans une situation matérielle difficile, vous savez, depuis...
De plus en plus, oui.
Oui, mais enfin, depuis les escoliers qui couraient sur la montagne Sainte-Geneviève au Moyen-Âge.
C'est juste.
Les petits camarades de Mimi Pinson, moi-même, j'ai vécu dans une vraie précarité quand j'étais étudiante, je sais ça. J'ai même squatté chez des gens, à un moment donné. Donc, je sais très bien ce que c'est. Mais... Depuis les escoliers jusqu'à mes étudiants, je dirais qu'on savait à peu près où on allait. On faisait des études parce qu'on savait ce qu'on voulait faire après. Aujourd'hui, on dit à ces malheureux étudiants, écoutez, de toute manière, les métiers n'existent plus, on ne sait plus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils les font.
Ça invite quand même à se questionner, Hélène Carrère-Dancausse, sur le rôle et la place de l'université aussi, dans notre pays. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, l'université?
L'université, c'est deux choses. C'est d'abord un lieu de liberté de l'esprit. C'est absolument fondamental. C'est là que l'esprit peut tout absorber parce qu'on lui offre tout et il choisit ce qu'il veut.
C'est un lieu de refuge aussi.
Ça a été, c'était les franchises universitaires étaient fondamentales, c'était le lieu où véritablement on venait pour échapper à ceux qui vous poursuivaient, mais c'est le lieu où la personnalité est reine, où véritablement tout est donné.
Mais alors quel lieu est-ce que ça risque de devenir si les étudiants qui s'y inscrivent ne sont pas en mesure d'étudier dans des conditions correctes,
hein? Je vais vous dire, c'est pire que ça une fois encore, c'est les conditions matérielles. Bon, l'État peut leur donner, pour finir, peut essayer de leur donner un petit salaire, peut essayer de construire des résidences étudiantes. Ils resteront dans la précarité parce que, regardez dans quel monde ils vivent, ces malheureux. D'abord, on leur dit que c'est la fin du monde. Vous comprenez cette charmante petite Suédoise qui se promène partout en disant « le monde va s'écrouler ».
Greta Thunberg.
Elle ignore tout à fait que... d'abord, les climats sur Milan ont beaucoup changé, et puis que véritablement, des tas de mouvements millénaristes ont dit des tas de fois, c'est la fin du monde.
Enfin là, ça va de mal en pis quand même.
Mais on ne peut pas. Oui, non, mais dire qu'on vit déjà dans un monde impossible, vous ne pouvez pas.
Il faudrait mentir
quand on a 20 ans.
Alors il faudrait mentir.
Attendez, non, il ne faut pas mentir. Il faut dire. C'est compliqué, il faut faire des choses, mais ne pas raconter sans des mesures que tout s'écroule. Si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que j'écoute moi les informations à la radio le matin. Toujours, j'adore la radio. Et je suis frappée parce que le mot que j'entends le plus, c'est le mot peur. On dit, faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur du climat? Faut-il avoir peur de l'huile de palme? Faut-il avoir peur du prix du loyer, etc. Le mot peur revient tout le temps. Quand on a 20 ans, on regarde l'avenir. Et on construit son avenir, même si c'est difficile. Et là, pour ces jeunes gens, maintenant, c'est fini. On ne peut pas vivre sans peur. On leur explique que tout est effrayant. Et au fond, pourquoi est-ce qu'ils vont? Pourquoi est-ce qu'ils étudient? Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'université?
Vous n'avez jamais eu peur, vous, quand vous aviez 20 ans, Hélène Carrère d'Encausse?
Non, je savais. Bon, j'avais peur de la rue dans le noir ou des choses comme ça, mais non, je savais que l'avenir était fondamental.
C'est intéressant parce que vous êtes quand même, il faut le rappeler, un pur produit de la, si je puis me permettre, de la méritocratie oui. républicaine. Vous vous êtes élevé socialement grâce au système scolaire, aux études, aux diplômes. À votre avis, dans quelle mesure est-ce qu'un diplôme aujourd'hui ne suffit plus à garantir un avenir à celui qui l'obtient?
Non seulement il ne suffit plus, mais il n'a plus de sens. Vous comprenez, c'est ça qui est tragique.
Plus de sens.
Il n'a plus de sens parce que précisément, on n'arrête pas de répéter que de toute manière, on change. Il n'y a plus de métier assuré, plus rien n'est assuré. Plus rien n'est assuré. Je veux dire que c'est précarité, c'est l'incertitude. Et vous avez employé le mot incertain tout à l'heure.
Oui, bien sûr, à l'origine de la précarité.
Absolument. Et c'est cela, si vous voulez, jamais, jusqu'à présent, je crois, mais ni dans les périodes de guerre, ni rien, des gens jeunes n'ont pensé que l'horizon était bouché.
Alors c'est l'une des raisons pour laquelle je vous ai convié ce matin, Hélène Carrère d'Encausse. Vous êtes une spécialiste des mouvements révolutionnaires en Russie. Est-il possible qu'une révolution soit en germe aujourd'hui?
Je ne suis pas sûre. Je me souviens de 68. En 68, les révolutions, les étudiants pensaient qu'ils faisaient la révolution. Et d'une certaine façon, ils ont révolutionné les mentalités. Raymond Aron a dit ça un petit peu méprisant, que c'était vraiment une espèce de grand show. C'était pas tout à fait exact. Il y avait quelque chose de profond chez eux. Mais ils le faisaient. Enfin, je me souviens, je me suis retrouvé dans des cortèges. C'était un enthousiasme. Enfin, ça n'était pas les cortèges du désespoir, c'était les cortèges des gens qui se disaient, nous construisons l'avenir.
Il n'y a pas de ça aujourd'hui?
Absolument pas. Nous n'avons pas d'avenir. C'est ça toute la différence. Et on n'a pas le droit alors de laisser des gens jeunes dans cet état.
Alors de quelle révolution est-ce que vous rêvez?
Moi je rêve tout de même que les pouvoirs publics prennent conscience de ça, qu'ils prennent conscience que ce qui est important, c'est d'offrir un avenir, c'est de montrer que l'avenir existe, de sortir de cette espèce de morosité. Et alors je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu à l'Académie, plus exactement la semaine dernière, le président du Portugal, qui est un homme extrêmement... c'est un professeur d'université, c'est pour ça que je le cite. Cet homme était un peu étonné de ce qui se passait en France. Et il disait, nous ne connaissons pas ce sentiment de désespoir, et notamment la jeunesse ne le connaît pas. Et ça, c'est très frappant. C'est quelque chose qui nous est inhérent. Il n'est pas possible que dans ce grand pays qu'est la France, avec une culture magnifique, on laisse la jeunesse dans cette espèce de... C'est plus que du désespoir. Vous comprenez qu'un garçon aille se faire s'immoler par le feu. Bon, quand Jan Palach, à Prague, s'est immolé par le feu en 1969, on comprend. Et il protestait au nom de tout son peuple opprimé. Je veux dire, ça avait un sens. Mais qu'un garçon de 20 ans aille pour des raisons de prix de loyer, de précarité matérielle, s'immoler, non. Les étudiants sont tous...
C'était un acte profondément politique. Ce qu'il a dit, c'est la précarité tue, effectivement.
Oui, mais justement, je veux dire que ça n'était pas... Il n'a pas su dire exactement. C'est beaucoup plus que ça. Il n'y a plus d'horizon pour eux.
Récemment, à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre sur les relations entre la Russie et la France, et qui paraîtra dans quelques jours, vous avez déclaré, Hélène Carrère d'Encausse, que ce n'était plus en Europe et donc plus en France que se faisait l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire au juste faire l'histoire?
Écoutez, pendant des siècles, le monde a eu les yeux fixés sur l'Europe. C'est en Europe que les choses se décidaient. L'Europe était au fond le cœur de la vie politique, de la vie culturelle, et je dirais même du XVIIe siècle au XIXe, c'était la France qui était le cœur. Le grand roi Louis XIV, Louis XV, c'est eux qui déterminaient exactement quel pays avait le droit de faire ceci.
C'est autour de nous que rayonnait en fait...
Absolument. Et ça m'attriste beaucoup, parce que moi je suis très attaché d'abord à la civilisation française, à la civilisation européenne, moi je suis une européenne convaincue, mais il est clair que il y a un glissement aujourd'hui, il y a des pays qui pèsent considérablement. L'Asie est un... Bon, vous savez, en 1913, il y avait un grand journal à Kaboul dont la manchette était « L'Asie aux Asiatiques ». C'était le début de ce mouvement. Au fond, il réclamait que l'histoire glisse vers eux.
Alors soyons un petit peu fous ce matin. Que faudrait-il pour que la France parvienne de nouveau à faire l'histoire ?
Elle peut. Alors ça, je vais vous dire...
Alors comment ?
Moi, je ne suis pas négative. je suis sûre qu'elle peut. Il reste tout de même... Bon, nous avons d'abord une langue magnifique. Ça, c'est fondamental. La francophonie, ça existe. Non, mais je ne vais pas plaider pour la langue, mais je veux dire que langue française est adoptée dans le monde entier. Nous ne la respectons pas toujours assez en France, mais dans le monde entier, pour des tas de gens, la langue française, c'est la langue du cœur. Et la langue par laquelle ils peuvent exprimer leurs espoirs. Nous avons un passé fantastique, un passé, une culture fantastique. Et il est tout à fait clair que la France est respectée hors de ses frontières plus qu'elle ne se respecte elle-même.
Alors pour qu'elle fasse l'histoire.
Eh bien, je pense qu'il y a des initiatives qu'il faut prendre. Et d'ailleurs, nous avons un président. Je ne suis pas là pour faire sa propagande.
Ah mais... non, merci, non.
Non, rassurez-vous, ouais. C'est pas mon métier et je n'ai jamais fait des choses pareilles. Mais ce que je veux dire, il dit il faut faire ceci, il faut faire ça, et il a raison. Il faut essayer de débloquer les choses, c'est-à-dire de sortir de cet univers complètement figé.
Mais comment ? C'est la question qu'on se pose.
Mais écoutez, il y a beaucoup de choses. D'abord, il faut prendre conscience que nous sommes que la mondialisation, ça n'est pas simplement, je dirais, l'écrasement, l'uniformisation, mais que la mondialisation, c'est de jouer un rôle en face du monde qui est en train de sortir, d'émerger. Ça, c'est fondamental. Or, nous sommes dans une erreur absolue. On considère tout simplement qu'il faut se dépersonnaliser, se conformer au reste du monde. Il faut reprendre conscience que nous avons une civilisation et que notre civilisation, elle a sa place dans le monde contemporain.
Celle qui ne joue aucun rôle dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Hélène, c'est la culture et son actualité à laquelle on accorde un petit peu trop de place, si vous voulez mon avis. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 18 novembre ?
C'est quand même beau une matière qui s'appelle histoire. Tu vois, t'arrives en cours, on dit aujourd'hui, histoire.
Pessac et l'histoire est dans le sac. Le Festival international du film d'histoire installe dès aujourd'hui sa 30e édition à Pessac, en Gironde, axée autour du thème « L'Amérique latine, terre de feu ». La manifestation propose près de 70 longs-métrages, documentaires inclus, et 40 rencontres-débats. On pourra notamment y rencontrer le documentariste chilien Patricio Guzman, ou voir en avant-première Cuban Network, le nouveau film d'Olivier Assayas. C'est classe.
I've had every bit of luck going, believe me. And I've had a wonderful life and I've photographed some wonderful people.
Terry aux éclats, photographe iconique, le britannique Terry O'Neill. C'était un samedi, il avait 81 ans, témoin de l'effervescence, glamour et rock des années 60. Il avait signé quelques-uns des clichés les plus légendaires de l'époque. On lui doit notamment la célèbre photo en noir et blanc de Brigitte Bardot, fumant, les cheveux dans le vent en 1971. Mais aussi celle de David Bowie avec un chien bondissant, ou encore celle de Mick Jagger chez le coiffeur. R.I.P. Terry.
Ça fait la troisième fois qu'on nous le prête. La France nous prête ce qui nous appartient. Bien évidemment, on est content que cette fois que ce soit un voyage sans retour. Allez, simple.
Sabre au clair, acte symbolique. Hier à Dakar, Édouard Philippe a remis au président sénégalais le sabre d'Omar Saïd Attal, matérialisant l'engagement de la France à restituer à l'Afrique son patrimoine artistique, trésor de laiton, de cuivre et de bois. L'œuvre qui faisait partie des collections du musée de l'armée à Paris repose aujourd'hui au musée des civilisations noires de Dakar. Près de 90 000 autres objets d'art africains sont encore dispersés dans les collections publiques françaises. Affaire à suivre. Et enfin, lundi, à plein tube, à l'occasion de ses 125 printemps Billboard, le magazine musical de référence a révélé le classement des plus gros tubes de la décennie, classé en fonction du nombre de semaines passées à la première place des charts. Résultat, c'est Mark Ronson et Bruno Mars qui cassent la baraque avec leur phénoménal Uptown Funk, sorti en 2014. Juste en dessous, on trouve LMFAO avec Party Rock Anthem, puis Ed Sheeran et son mythique Shape of You. Alors, let's dance. Et Hélène Carrère-Dancos, invitée ce matin de Boomerang, votre nouveau livre, Hélène, La France et la Russie d'Alexandre le Grand à Lénine, sera près demain et vous y retracez 3 siècles de relations franco-russes. Qu'est-ce qui, au fond, fait la complexité du lien qui nous unit à la Russie ?
Eh bien, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure, que la France est rayonnante. La Russie a eu les yeux fixés sur la France tout au long de son histoire, on peut dire. En fond, quand la Russie avait vu son existence supprimée par l'invasion mongolo-tatare, elle ressurgit dans la vie internationale et dans la vie comme un pays indépendant au XVIe siècle. Et à ce moment-là, elle se tourne vers le pays qui est le plus, celui qui domine l'Europe, c'est la France.
Oui.
Et on sent très bien que c'est pour elle quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est le symbole de l'Europe.
Alors, ces relations ont évidemment énormément évolué. À plusieurs reprises, aujourd'hui, le président Macron a exprimé sa volonté de se rapprocher des Russes, ce qui n'a pas toujours été très bien perçu de la part de certains membres de la classe politique, au-delà de ceux qui la gouvernent. La Russie, pourquoi est-ce qu'elle inquiète, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'elle fait peur?
Elle fait peur parce qu'il y a eu une rupture profonde. Bon, avant, je dirais, avant la révolution russe, elle était considérée comme un pays de seconde catégorie, même si c'est devenu une très grande puissance internationale, sauf dans la petite période de l'alliance franco-russe à la fin du XIXe siècle, quand nous avions peur de l'empire allemand que Bismarck avait fondé. Mais pour le reste, on la regardait de haut pendant très longtemps, alors que la Russie avait les yeux fixés sur la France et qu'elle essayait véritablement de traiter avec la France. Je voudrais rappeler tout de même que Pierre le Grand, marque le début de mon livre, avait une idée, il voulait marier sa fille, qui sera impératrice de Russie, Elisabeth, au fils du roi de France.
Oui, d'ailleurs, votre livre, c'est la Russie de Pierre le Grand à Lénine. J'ai fait une erreur.
Non, non, mais vous inquiétez pas, ouais. Ça n'a pas d'importance. Vous avez raison, les Alexandres sont...
Oui, enfin bon, là, c'est quand même complètement différent, pardon.
Mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fascination pour rentrer en Europe par l'intermédiaire de la France, parce qu'elle est considérée comme la grande puissance. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, le président Macron, quand il a eu l'idée de... rouvrir le dialogue avec la Russie, a eu une intuition absolument extraordinaire, c'est qu'il fallait passer par Pierre le Grand. Et il a fait venir, il a invité le président russe Poutine à Versailles. C'est exactement ce qui s'était passé. Au fond, les liens ont commencé à se tisser, même s'ils étaient inégaux, quand Pierre le Grand est venu à Paris.
Dans quelle mesure la Russie est-elle encore européenne, pour vous ?
Elle est, alors je vais vous dire, elle est fondamentalement européenne, parce qu'elle se sent européenne, parce que c'est une part fondamentale de la culture de l'Europe. Vous comprenez que, comment pouvez-vous dire Pouchkine, Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski, ce sont des Européens, les Russes se sentent Européens et toute leur histoire a été le retour vers l'Europe. Ils ont été coupés de l'Europe à deux reprises, il ne faut pas l'oublier. Ils l'ont été à partir du XIIIe siècle par l'invasion mongole, pour deux siècles et demi, et ils l'ont été pendant 75 ans par le régime soviétique.
Vos parents, quand ils sont arrivés en France, ils se sentaient européens ?
Mais écoutez, ma famille était une famille très européenne. Ils parlaient tous cinq langues, on parlait dans ces familles français plutôt que russes.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que représentait la France, en fait, pour eux ?
La France, c'était la France de la culture, c'était la France d'une longue histoire et d'une histoire commune, d'un dialogue. Le dialogue des cultures, c'est pas seulement un mot de maintenant.
Et quel lien est-ce qu'ils entretenaient avec la langue française, vos parents, eux qui, bien que vous soyez nés en France, vous parlaient en russe, si je ne m'abuse?
Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 5 ans, on m'a parlé russe pour une simple raison. Mes parents étaient des émigrés qui avaient tout perdu, et enfin, qui n'avaient plus de statut matériel. Et malgré tout, ils voulaient que leurs enfants parlent russe, parlent plusieurs langues. Ils se sont dit, il y en a qu'ils apprendront à l'école. Le russe, il faut être complètement bilingue. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé russe jusqu'à l'âge de 5 ans. J'allais jouer dans les squares avec des enfants qui me parlaient français. Et à 5 ans, j'avais un peu moins de 5 ans, on m'a envoyé chez une amie de mes parents qui ne parlait pas un mot de russe. Je ne parlais pas un mot de français. J'ai passé 3 mois merveilleux avec elle. Je suis rentré chez mes parents, parce que ça se passait en Bretagne. Je suis rentré chez mes parents en parlant un français parfait, sachant lire, et sachant par cœur des tas de fables de La Fontaine, c'est vous dire que c'est comme ça que ça passe.
Et qu'est devenue la langue russe pour vous tout au long de ces années? Quand est-ce que vous la parliez?
Alors ça, c'était compliqué parce que mes parents étaient morts, j'avais une famille qui était assez réduite. Alors parfois, je me parlais à moi-même. D'abord, j'ai toujours lu énormément en russe.
À vous-même?
La littérature russe. Je me suis parlé à moi-même, parfois, pour ne pas perdre. Puis, au temps du régime soviétique, je ne pouvais aller en mission qu'en Union soviétique, sous le contrôle des affaires étrangères, pour de courtes périodes. Et vous savez, en Union soviétique, on me disait, ça vous amusera, on me disait, qu'est-ce que c'est que cette langue que vous parlez ? C'est une langue d'émigrés. Et je répondais à Royal, je disais, c'est la langue distinguée de Saint-Pétersbourg. Et ben, je peux vous dire que ça faisait un grand effet.
C'est émouvant de vous entendre parler de la langue française lorsque vous l'avez apprise au départ avec la fable de La Fontaine. Ce prestige qui a fait le rayonnement aussi international du français, ce prestige littéraire, cette langue de la culture, diriez-vous que ça appartient au passé?
C'est la langue des écrivains. Écoutez-la. Les écrivains, dans quel pays les écrivains ont-ils autant d'importance et la littérature a autant d'importance?
Encore aujourd'hui,
absolument.
Hélène Carrère d'Encausse.
Ou encore aujourd'hui. Nous sommes tout de même complètement façonnés par la littérature française. Je dis nous parce que je suis française. J'ai des origines russes, mais je me sens française jusqu'à la moelle des os. Ça, c'est la vérité.
Mais quand même.
Et cette culture, ça me paraît fondamental.
En quoi le monde dans lequel on vit aujourd'hui est-il sensiblement différent de celui que vous avez connu au moment, disons, mettons, de votre entrée à l'Académie, concernant notamment la place, l'importance qu'on accorde à la langue, à la littérature, à la culture? Ça a changé.
Ce qui change, mais je crois que ça, il faut arrêter cela. Ce qui change, une fois encore, c'est la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a une uniformisation. On tend absolument à considérer que tout est pareil et qu'au fond, ça n'a pas d'importance de bien parler une langue. Il faut être comme tout le monde.
Alors, qu'est-ce qui ne change pas?
Ce qui ne change pas, c'est que précisément, il y a un lien viscéral entre, et ça, je crois que c'est fondamental, il y a un lien viscéral entre l'individu dans une société et la langue dans laquelle il a été élevé, et qui est celle de son pays. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut les défendre. Parce que ça donne, je veux dire, surtout en France. Alors ça, c'est tout à fait particulier. Parce que l'État français a été à l'origine, au 9e siècle, hein, c'est, il y a un millénaire, c'est pas en 1789. L'État français a été défini par sa langue. Ah bon, alors, et c'est la langue qui a fait l'unité, qui a donné, je dirais, l'identité à l'État français, qui a fait l'unité de la société. Et elle est toujours là.
Alors, célébrons-la, cette langue française ensemble et avec joie. S'il vous plaît, même danser, si vous voulez bien, avec Jacques Brel, sur sa valse à mille temps. C'était en 1959. Vous êtes sur France Inter avec Hélène Carrère d'Encausse. Vous écoutez Boomerang. Un lundi.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, entre selon sa main 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au au troisième temps de la valse. Il y a toi, il y a l'amour et à moi, et Paris qui bat la mesure. Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure. Laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans. À chaque carrefour, on parlait que l'amour a fraîchi ton printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, de passer en des 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps. Face aux amants, trois ans pour trouver le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On la cherchait depuis plus d'un siècle, en se demandant si c'était pas une légende urbaine, une rumeur de la presse à scandale, un délire romanesque. Que nenni, la voici, j'en suis sûr, l'héritière d'Anastasia Romanoff. Quelque part entre la présidente et la tsarine, le cheveu impérial aussi bouffant que bluffant, l'œil polyglotte, vif, intelligent, le sourire comme il faut, la pierre bien placée, avec son petit tailleur rose. Ce matin, Hélène Carrère-Dancausse, invitée de Boomerang, membre de l'Académie française, élue secrétaire perpétuelle il y a 20 ans. C'était d'ailleurs la première fois, Hélène, qu'une femme accédait à ce titre. Vous est-il arrivé de vous percevoir comme une exception ?
Non, parce que j'ai vu des exceptions à côté de moi. Par conséquent, l'Académie française est pleine d'exceptions. Vous savez, alors on ne se sent pas une exception.
Oui, vous étiez quand même la première femme.
Oui, mais y avait-tu une première femme qui était entrée à l'Académie, qui était Marguerite Yourcenar ? Vous savez, ça vous rend tout de suite modeste quand vous vous dites que... Il y a des premières femmes qui ont fait des tas de choses comme ça.
La place des femmes au sein de l'Académie, c'est un sujet qu'on a évoqué plusieurs fois ici, notamment avec Dominique Bonnat et Barbara Cassin, œuvrer pour la présence de plus de femmes. Quel enjeu est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que c'en est un, d'ailleurs ?
Alors, je vais vous dire, je pense qu'il faut des femmes, tout simplement, parce qu'il est agréable d'être entre hommes et femmes. Moi, j'ai des idées très simples là-dessus. C'est beaucoup plus gai. Mais... ça n'est pas du tout une idée de pour préserver la parité, pour avoir des quotas. Ça, je suis tout à fait contre. Mais je trouve que ce n'est pas digne pour les femmes. Mmh. Elles accèdent à ce qu'elles ont. D'ailleurs, j'ai toujours dit que je trouvais qu'elles avaient beaucoup de chance parce que tout a été difficile pour elles. Et par conséquent, ça les a obligées à être très bonnes, meilleures que les hommes.
C'est vrai qu'au moment des débats autour de l'écriture inclusive, de la féminisation de certains noms de métiers, on a pu vous sentir assez réticente vis-à-vis de certaines revendications. Pourquoi, à votre avis, certains et certaines tenaient-ils tant à rendre le féminin plus visible dans la langue ?
D'abord parce que il faut pas. C'est une erreur. Il faut pas triturer la langue. L'écriture inclusive est une ânerie totale. Vous comprenez ? Essayez de lire un texte en écriture inclusive et vous tuez complètement l'harmonie de la langue.
Elle évolue, la langue aussi, Hélène Carrère-Dancausse, non ?
Naturellement, elle évolue. Mais elle évolue d'une façon harmonieuse, elle évolue d'une façon décente. Pourquoi est-ce que vous devez bafouiller en lisant un texte ? Ça n'est pas lisible. Enfin, c'est le... Point,
peut-être pour y faire figurer des gens, des femmes en l'occurrence, qui...
Écoutez, les femmes ont joué un rôle formidable en France, n'exagérons pas.
On les a un petit peu effacées, non ?
Non, mais elles ont joué dans la vie culturelle, les salons du 17e et du 18e siècle. Non seulement ils ont fait l'Académie française, mais ces salons ont porté les idées. Ces femmes qui recevaient là, les Madame Geoffrin et tout ça, elles recevaient tous les ambassadeurs étrangers, elles les mettaient en contact avec la culture française.
Mais lors de ces débats sur la féminisation, sur la place des femmes, en fait, dans la langue, il y avait des arguments avec lesquels vous étiez d'accord, quand même ?
Écoutez, c'est moi qui ai fait élire les femmes qui y sont,
oui.
Pour dire la vérité. Non, mais c'est vraiment moi. Ça n'a pas toujours été simple. Bon, mais il ne faut pas non plus... D'une part, dire qu'on les élit parce qu'elles sont des femmes, c'est une insulte absolue.
Oui.
On les élit pour ce qu'elles sont, pour leur œuvre.
La domination masculine, Hélène Carrère-Dancausse, dans quelle mesure est-ce que vous avez eu le sentiment d'en avoir fait l'expérience, vous ?
Non, je n'en ai pas fait l'expérience, pour dire la vérité. Je suis obligée de reconnaître que je me suis toujours sentie... j'ai un frère, j'ai un cousin germain, j'ai toujours été à égalité avec tout le monde dans mon enfance.
Vous avez grandi quand même à une époque où les hommes et les femmes n'étaient pas égaux, c'est rien de le dire.
Écoutez, moi j'ai été professeur d'université, je suis rentré à l'Académie française, ma route n'a jamais été barrée par des hommes, je dois dire. Je n'ai rencontré des hommes aimables. Je ne peux pas dire que j'ai eu un problème avec les hommes.
Petite, qu'est-ce qui vous faisait rêver ? De quoi vous rêviez?
Je veux dire, d'abord, je rêvais d'histoire.
Ah, c'est vrai?
Des histoires et de l'histoire. J'ai toujours été passionné par l'histoire en général. Ça, c'est petit, dès que j'ai su lire, on m'a donné non pas Bibi Fricotin, mais les contes et légendes de la Grèce, etc. Enfin,
et pourquoi est-ce que ça vous fascinait, l'histoire? Parce que c'était.
Parce que c'est.
Une façon de comprendre le monde aussi.
Parce que c'est un monde qui a de la grandeur. Je pense qu'il y a de la grandeur. On s'identifie aux personnages historiques.
Et c'était une façon de comprendre le présent aussi.
Ah ben absolument. Et ça vous donne aussi l'idée que il existe des modèles, ce qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'on se guide sur ces personnages qui ont dominé l'histoire.
S'il fallait en garder un seul de modèle qui vous a suivi toute votre vie, quel serait-il?
Oh, je dirais que ça, c'est Dostoïevski, qui n'est pas un personnage historique, qui est un auteur de un immense écrivain. Mais j'ai pour lui une révérence tout à fait particulière. Je considère que ce qu'il a écrit est absolument irremplaçable. Et le personnage aussi me touche beaucoup.
Alors on va le relire, pour la peine. Je voudrais vous remercier, Hélène Carrère d'Encausse, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que La Russie et la France, de Pierre Legrand à Lénine, est publié chez Fayard. Ça sort après-demain, c'est absolument passionnant. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. I like to see everything in neon. Drink lime green, stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. I like to light up the stage with a song. Do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me. Meet me in a song that's sweet. Turn the radio on, dance into a pop song. Fuck it, I love you. Fuck it, I love you. Fuck it, I love you. I really do. I used to shoot. Sur France Inter, Fuck It, I Love You. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
Avec un I Love You.
Avec un I Love You, beaucoup plus que la première partie du titre. Enfin bref, à demain.
Oui, c'est vrai. À demain, au Kistan.